au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à notre rendez-vous de cette semaine avec comme invité deux patineurs de vitesse qui sont sur le point de s'envoler à destination de la Corée du Sud à Pyeongchang pour leur toute première participation à des Jeux olympiques. Et toute une histoire derrière, bien sûr, leur carrière individuelle. Ils forment aussi dans la vie un couple, comme quoi le patinage de vitesse est propice sans aucun doute à l'amour. On l'a vu avec Marianne et bien sûr Charles Hamelin. Mes invités cette semaine, Cassandra Bradette. Bonjour Cassandra.
Bonjour.
Bienvenue à l'entrevue.
Merci.
Et Samuel Girard. Bonjour Samuel.
Bonjour.
À ne pas confondre avec un autre Samuel Girard, originaire également du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui, oui.
C'est un nom qui était destiné à patiner vite. L'autre Samuel du hockey qui vient de Roberval, toi qui viens de Ferland et Boileau.
Oui.
Ferland et Boileau. Vous connaissez-vous les deux Samuel?
Du tout, on s'est jamais rencontrés. Plusieurs fois, on ne veut pas notre nom fait en sorte qu'on fait parler de l'un et l'autre, mais jamais rencontré. Ça peut arriver un jour de le rencontrer et de le croiser.
C'est écrit dans le ciel, vous allez vous rencontrer. Peut-être d'une prochaine Olympiade quand les pros du hockey reviendront puis que Samuel aura consolidé son statut dans la Ligue nationale. Toi, Cassandra, tu viens de Saint-Félicien. C'est une pépinière de patineurs et de patineuses de vitesse que cette région, hein, le Saguenay et le Lac-Saint-Jean.
Oui, on est quand même beaucoup de patineurs quand on regarde ça, autant dans les années passées, puis là on regarde aussi les athlètes de la relève, il y en a beaucoup de la région aussi qui vont sortir justement. Il y a des patineurs du CRCE, il y en a même qui sont invités au centre à patiner avec nous. C'est quand même, je trouve ça vraiment le fun de voir que notre région est capable de se marquer au niveau autant régional, provincial, international puis national.
Est-ce que vous vous êtes rencontrés dans votre région ou vous vous êtes rencontrés rendus à Montréal?
On s'est rencontrés ici, puis c'est vraiment c'est un gros hasard qui a fait en sorte qu'on s'est rencontrés parce qu'il est un petit peu plus jeune que moi. Puis il est arrivé un moment dans ma vie où que ça allait pas très bien en 2013, puis il m'a aidé.
J'arrivais là, moi j'arrivais à Montréal, c'était ma première année, puis c'était durant les sélections olympiques. Donc on est arrivé, moi j'arrivais à Montréal, elle s'entraînait, on est dans la même, veux pas, centre national, centre régional d'entraînement, on a la même glace, même c'est la même maison, on pourrait dire, fait qu'on se côtoie tout le temps. Là.
Vos deux histoires sont vraiment très intéressantes et je vais en apprendre avec les auditeurs qui sont là sur vous au cours des prochaines minutes. La table est mise, je pense, pour qu'on plonge un petit peu dans ton histoire de la manière que tu viens de nous présenter des choses par rapport aux difficultés que tu as vécues, Cassandra. Et je considère, tu vas participer à une première Olympiade en Corée du Sud,
ouais.
Tu fais partie de l'équipe de relais. Et en soi, le simple fait que tu sois là aujourd'hui à 28 ans, puis que tu aies continué de persévérer pour te tailler une place après quelques tentatives au cours des dernières années pour faire partie de l'équipe canadienne, c'est un exploit, c'est exceptionnel. Comment tu vécu ça et jusqu'à quel point tu as peut-être pensé même à accrocher tes patins à un certain moment donné?
J'ai pensé tellement de fois à arrêter parce que avant 2013, dans le fond, j'ai eu beaucoup de blessures, beaucoup d'embûches. J'ai toujours essayé de trouver des solutions. Je pense entre autres que le patin, c'est ce qui m'a aidé, c'est à trouver des solutions. Après ça, quand j'ai vu que c'était un peu plus possible pour moi, j'étais invitée au Centre national en 2011 après les Jeux de Vancouver, pardon. Puis là, j'ai vu mon potentiel se développer un peu plus, même si je savais que physiquement, j'ai toujours eu des bons aspects physiques. Puis,
t'as eu des blessures importantes, là.
Oui.
Ça, on fait la déclinaison de ça.
Ouais.
Est-ce que Vancouver, as-tu eu une chance à Vancouver?
Non, pas du tout.
T'étais pas sur les rangs pour Vancouver. Donc, t'étais arrivé ici au Centre national d'entraînement en prévision de Sochi. Là. T'étais dans la machine, si tu veux.
Ouais. T'sais, dans le fond, moi, depuis 2007 que je suis à Montréal, mais j'ai toujours eu des embûches. Je me suis fait mal au dos. C'est à partir de 2007, quand je suis à Montréal, j'ai commencé à avoir mal au dos. Après ça, j'ai eu une cheville cassée, je me suis soufflé une cheville. Après ça, j'ai eu une commotion. Bref, tu sais, ça s'est accumulé. Puis à chaque fois, je revenais, ça allait bien. Puis j'ai l'impression que à chaque fois que je faisais un pas vers l'avant, ben, je reculais de 2 ou 3 pas.
Et on t'a arrêté même pendant une année, là. On dit, refait le plein d'énergie, là, un peu avant Sochi, en quelque sorte.
Hein. Oui. Dans le fond, quand j'ai été invitée au Centre national en 2011, j'ai eu une belle ascension. J'ai fait les premières Coupes du Monde en 2011-2012. Puis la saison d'après, ils ont décidé de m'arrêter parce que j'avais souvent des épisodes de dos qui m'empêchaient de m'entraîner, qui m'empêchaient souvent de marcher ou de fonctionner juste comme une personne normale. Fait que ils ont décidé de me retirer du corps d'entraînement, pas d'entraînement, physiothérapie à tous les jours. Fait que mais tu sais ça m'a permis d'aller à l'école. J'allais à l'école à temps plein à l'université.
Ça en biochimie,
permis,
hein.
Oui, ça m'a permis d'avancer mon cheminement scolaire. Puis après ça dans le fond, le plan c'était que je recommence à m'entraîner en mars 2013 pour les sélections d'août 2013. puis j'ai recommencé à m'entraîner comme prévu. Ça allait bien, je répondais bien à l'entraînement jusqu'à un certain point où j'ai carrément foncé dans un mur.
Et pourquoi t'as foncé dans un mur? Je pense qu'il y a eu un surentraînement. Peut-être que t'as voulu rattraper le temps perdu par l'année à laquelle ou pendant laquelle on t'a mis au repos, en quelque sorte.
Oui, c'est sûr que j'étais en mode rattrapage, puis tu sais, ça va bien, puis tu sais, tout ce que j'avais dans le mire, c'était les sélections olympiques en août. Fait que moi, je voyais pas, tu sais, oui, j'étais fatiguée, mais tu sais, je me fermais un peu les yeux sur les symptômes que je voyais, puis à un moment donné, ben c'était pas juste dans ma tête, ça s'est juste répercuté. Il y avait plus rien qui se passait, là. J'embarquais, j'étais même plus capable, je suis une sprinteuse, puis là, j'étais même plus capable de faire un départ explosif, puis pourtant, c'est comme ça que je suis reconnue en tant que patineuse. Fait que c'est là qu'on a vu que je faisais un surentraînement. J'ai quand même décidé de prendre part aux sélections olympiques, mais tu sais, j'ai fait même pas de la figuration. J'ai terminé 15e parce qu'il y a eu une personne qui a abandonné la compétition. Mais sinon.
C'est le fond du baril à ce moment-là, là.
Ouais, c'est là que j'ai atteint le fond, puis je me demandais, j'ai-tu vraiment quelque chose à faire encore là-dedans? Puis tu sais, t'es tellement fatigué, là, t'embarques dans un mindset différent, puis tu te poses plein de questions parce que tu sais pas si c'est vraiment juste ton corps qui répond plus ou c'est juste t'es vraiment fatigué ou j'ai peut-être déjà tout donné ce que j'avais à donner au patin, là. Fait que j'ai essayé de faire la saison pareil, puis à l'issue de la saison 2013-2014, je me suis pas reclassée sur l'équipe. Dans le fond, j'étais pas 14e, puis les 14 premières ont un brevet. Moi, j'étais plus dans le top 14. Puis il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, avant les sélections olympiques, j'étais 6e. Au Canada. T'sais, j'avais quand même mes chances de faire les Jeux olympiques à ce moment-là. J'avais mes chances de me battre pour une position. Puis dans cette situation-là, j'ai même pas été capable de faire une compétition à la hauteur de ce que moi, j'espérais.
Conséquence, perte de financement.
Perte de financement. Fait que là, la saison d'après, il a fallu que...
Moralement aussi.
Moralement, je suis rendue à 23 ans. J'étais habituée d'être autonome. Là, je suis en appartement à Montréal. Je veux aller à l'école. J'ai plus d'argent qui rentre. Fait que là, mes parents, ils ont recommencé à m'aider financièrement. Mais j'ai décidé avec eux, dans le fond, que ça passait ou ça cassait. Je m'entraînais tout l'été avant les sélections en automne 2014. Je me suis entraînée. Puis je me suis dit, bon, ben si ça passe pas, je m'arrête. C'est là que je m'arrête. Mais finalement, je me suis classée pour les Coupes du monde à ce moment-là.
Et c'est là que t'as repris, comme on dit, du poil de la bête. T'as pris confiance tranquillement. Nous sommes en conversation avec Cassandra Bradette de l'équipe de patinage de vitesse canadienne. Avec nous également en studio, son conjoint et patineur de vitesse Samuel Girard, vers qui on va se tourner, bien sûr. Mais là, on est, puis il est tout attentif également pour l'histoire que nous raconte Cassandra.
Il l'a vécu un petit peu.
Il l'a vécu de près, parce que c'est ça le point de départ. C'est là où vous êtes connu.
Ouais.
As-tu vécu de la grosse déprime, dépression passagère ou quelque chose qui ressemblait à ça à ce moment-là?
Oui, j'ai eu des grosses déprimes parce que, tu sais, à un certain point dans une carrière d'athlète, tu t'identifies beaucoup, beaucoup en tant qu'athlète. Tu dédies tellement beaucoup de ton temps au sport que tu le sais pas. On dirait que tu finis par oublier qu'est-ce que t'es en réalité. Puis moi, il a fallu que je me retrouve qui j'étais. Il a fallu que je me dise, mais tu sais, je suis pas juste Cassandra l'athlète, je suis Cassandra qui aime cuisiner, je suis Cassandra qui est travaillante, je suis Cassandra qui va à l'école, qui a une curiosité pour les sciences, j'aime aller en nature, j'aime les animaux. Tu sais, de me retrouver, savoir qui j'étais en réalité pour pas que le patin, ça soit, c'est pas ma vie, c'est pas moi.
Ta valeur n'est pas seulement liée à tes résultats.
C'est pas relié au patin. Puis tu sais, pour moi, le patin, c'était une fatalité. Quand ça allait pas bien, là, tout allait pas bien.
C'est la fin du monde.
Fait que là, j'ai fait la coupure. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un meilleur équilibre puis que j'étais capable. Tu sais, il a fallu que je me dise que je suis pas juste une athlète.
C'est vraiment intéressant et touchant que tu puisses nous en parler en entrevue aujourd'hui, Samuel Girard. Donc, toi, tu fais connaissance avec Cassandra Bradette. À ce moment-là, tu te rends-tu compte à quel point elle est peut-être affectée ou vraiment là en perte de confiance ou dans le fond du baril, comme on l'a évoqué tout à l'heure?
Oui, effectivement. Moi, je suis arrivé au moment où est-ce qu'on s'est rencontrés. C'était la fin des sélections olympiques. Puis c'était... T'sais, j'ai pu voir que c'était difficile, ça me paraît que c'était difficile, puis j'ai vécu avec elle la saison où elle s'est pas classée. T'sais, ça a été la période la plus difficile, puis elle me disait que t'sais, moi j'arrivais dans le sport, puis on commençait à se voir tout ça. Fait que moi je voulais qu'elle continue à patiner, moi j'arrivais dans le sport. Donc c'est sûr que ça a été un moment qui était difficile à savoir si elle allait arrêter ou non. Puis l'ultimatum qu'elle s'était donné aux sélections de si ça marchait, je continue, si ça marche pas, bon ben j'accroche mes patins. Elle s'est donné la chance, puis ça, moi je pense que c'est la plus belle des choses qu'elle a fait, de se donner une dernière chance, de dire j'y vais à 100%, coûte que coûte, puis si ça marche, c'est parfait, tant mieux, on continue. Puis c'est un peu ce que je disais, ça l'a mené aujourd'hui à participer aux Olympiques, puis on va vivre nos premiers Olympiques ensemble.
Wow. Ça n'a même pas été facile dans les 4 dernières années. Je me suis reclassée pour les Coupes du monde, mais tu sais, j'ai tellement appris à me connaître, puis avec les entraîneurs, on a appris à trouver une manière de m'entraîner puis de cibler un peu quel type d'athlète j'étais, puis d'en donner, mais pas trop, parce que, comme j'ai dit...
Gestion de l'énergie,
parce que je suis quelqu'un que c'est tout ou rien, là.
Fait, OK, un peu excessif.
Oui, je suis à l'entraînement, je suis à 100%, puis tu sais, souvent, c'est ce que ça a souvent porté un peu à mon malheur, parce que tu sais, j'en donnais souvent trop, puis c'est ce qui a fait en sorte que je me suis blessée, j'étais trop fatiguée, ben j'ai de la misère à m'arrêter, fait qu'on a réussi à doser avec, puis à trouver des outils aussi avec les entraîneurs pour doser l'entraînement, savoir quand est-ce qu'il fallait que je m'arrête, puis tout ça.
Ouais. Est-ce que quelqu'un qui t'a été vraiment d'une aide précieuse à travers tout ça, peut-être dans ta vie personnelle et aussi par rapport au ouais. patinage comme tel?
Oui, c'est sûr que au niveau de l'encadrement au patin, ben je pense que notre physiothérapeute Véronique, elle est là depuis que justement j'ai commencé à avoir mal au dos en 2007. Elle est là, puis elle m'a suivie, puis elle a jamais pris ma situation. Elle l'a toujours pris au sérieux. Elle a jamais pensé que, tu sais, je disais du fla-fla ou que, tu sais, c'était pas vrai ce que je disais ou que c'était pas si grave. Elle a toujours pris le temps pour me soigner. Puis, tu sais, encore là. Puis, c'est elle qui fait le voyage avec nous. Tu sais, c'est vraiment une personne qui a toujours été là pour moi. Puis, tu sais, mon préparateur mental, il m'a donné les outils aussi pour m'aider.
Quand on est un athlète, là, c'est plate d'être blessé. C'est plate d'être blessé souvent. Puis est-ce qu'on vient tanner de dire, ben, je suis blessé, tu sais, comme dans le petit monde du patinage de vitesse. Puis comment ça va, Cassandra? Ben,
je suis blessé. Ouais, ça vient lourd.
Ça vient que ça te pèse dessus.
Mais c'est tellement drainant parce que à chaque fois que t'es blessé, tout ce que tu veux, c'est revenir. Puis quand tu reviens, tout ce que tu veux, c'est de rattraper les autres. Fait que t'es jamais comme en pleine quiétude. T'es tout le temps en mode rattrapage. Puis c'est tout le temps stressé parce que tu vois les autres s'améliorer. Tu t'entraînes pas, tu vois les autres s'entraîner. Là, tu t'entraînes, tu vois les autres qui ont pris une longueur d'avance sur toi.
Là, tu vois ton rêve peut-être s'évaporer un peu.
Ouais.
Mais tu sais, as-tu pensé que tu irais jamais aux Olympiques?
Si je regarde il y a 5 ans, je pensais pas que j'allais y aller. J'ai commencé à avoir une petite lueur d'espoir quand je suis revenue au niveau international. J'ai commencé à croire en moi à ce moment-là, mais tu sais, t'as toujours un doute. T'as toujours un moment où ce que tu doutes de toi parce que t'es fatigué, parce que ça va moins bien. Tu sais, t'es tellement dans ta petite tête, dans ton toit que tu vois pas globalement qu'est-ce qui se passe autour de toi. Puis, t'sais, des fois, je pense que c'est bon justement de prendre un petit peu de recul puis de voir, ah, OK, j'ai fait ça. Puis de moins être à l'intérieur de tout ce qui se passe de toi parce que c'est là que tu doutes le plus quand tu regardes pas autour de toi.
Belle entrée en matière pour cette entrevue avec Cassandra Bradette, patineuse de vitesse, membre de l'équipe de relais en prévision des Jeux de Corée du Sud à Pyeongchang dans quelques jours à peine. Dans le fond, ça s'en vient tellement vite. Avec nous également en studio, son chum, son conjoint, patineur également, j'ai de 22 ans, Samuel Girard. Samuel, on va entrer davantage dans ton histoire également et on va le faire tout de suite au retour de la pause que voici.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Voilà de retour en entrevue cette semaine. On a le plaisir d'accueillir deux athlètes qui, ensemble, comme couple et comme athlètes, membres de l'équipe de patinage de vitesse courte piste du Canada, vont prendre part à leur tout premier Jeux olympiques en carrière. On a entendu un peu l'histoire de Cassandra avant la pause. Beaucoup d'adversité, des blessures et finalement, ben le rêve qui est là. L'envoler vers Pyeongchang dans quelques jours. Samuel, si on s'intéresse à comment tu t'es devenu un patineur de vitesse, ben il faut retourner là d'où tu viens, Ferland et Boileau. Premièrement, Ferland et Boileau, le nom est original en soi, hein?
Tu connais
l'historique de ton village, 550 habitants, c'est au lac Saint-Jean, dans la région du Fjord, mais raconte-nous, c'était quoi être un jeune homme que je pourrais presque qualifier d'un bébé du déluge?
Oui, effectivement, je suis né 3 semaines avant le déluge. Moi, je suis né à Ferland-Boileau. J'ai toujours fait beaucoup de sport en général, ça soit du vélo. J'ai fait pas mal tout ce qu'il y avait de sport, pas en compétition. Donc, le seul que j'ai fait de compétition, le patinage de vitesse. Puis, mes parents voulaient que j'apprenne à patiner. Ça a commencé comme ça. Puis, j'ai développé un peu le goût du sport, le goût de la vitesse, la stratégie, la course. Je suis quelqu'un de très compétitif. Donc, ça aidait à aimer le sport. Puis, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai vraiment continué. Puis, que à chaque année, je revenais. Puis, que je m'entraînais là, dans le sport.
Tout jeune à Ferland et Boileau, là, dans les années qui ont suivi le déluge, il semble que ça a affecté, bien sûr, la population de toute la région. On sait, ça a été une tragédie. Et ça a fait en sorte qu'il y avait peu d'enfants dans la communauté quand t'as grandi, hein?
Ben, en fait, à Ferland, la population était un petit peu plus grande avant justement le déluge. Puis là, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été détruites avec le déluge. Donc, il y a beaucoup de familles qui sont déménagées. Mais c'est sûr que moi, dans mon niveau, dans les années que j'évoluais, les enfants de mon âge étaient, on n'en avait pas beaucoup. L'école avait environ entre 50 et 60 élèves. Donc, dans mon année, on était 5 élèves en quatrième année. Donc, ça démontre un peu les jeunes, comment on était, le nombre qu'on en était. Mais pour moi, ça changeait pas, puis ça change pas le comment est-ce que je vois la place en ce moment. Les familles, toutes les gens un peu plus vieux que moi reviennent maintenant à Ferland, reviennent s'installer. Ils ont 2-3 jeunes enfants qui vont maintenant à l'école. C'est comme, il y a comme un boom qui se fait en ce moment. Puis ça, je suis super fier que justement le village reprenne un peu de vigueur, un peu de vie, puis remette un peu ça sur la map.
On recule là, d'une quinzaine d'années. Je sais pas à quel âge tu as chaussé les patins pour la première fois, mais est-ce qu'il y a un aréna à Ferland-Boileau ou c'est une patinoire extérieure ou c'est un ruisseau gelé, un étang? C'est quoi tes premiers coups de patin? Là? Puis c'était avec un hockey dans les mains ou avec des longues lames déjà?
C'était vraiment... Il y a une glace extérieure à Ferland, mais ça a été vraiment à l'aréna à la baie, au FDA de la baie dans le club que j'ai commencé à patiner. J'ai fait ma première année à l'âge de 4 ans à apprendre à patiner avec des patins de hockey. J'ai fait ma première compétition avec des patins de hockey aussi. Puis l'année d'après, c'est là que j'ai essayé les longues lames, puis c'est là que ça a commencé. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé les longues lames, puis les compétitions de patins, l'habit de patin, le casque, là, on s'équipait tranquillement. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. Les premiers coups de patin ont été sur glace. Je me rappelle, la première compétition que j'ai faite a été au Centre Georges Vézina. J'étais tout petit. J'avais des gants de travailleur avec un casque de hockey, puis c'est vraiment là que ça a été ma première compétition.
En dehors des patins, c'était quoi grandir à Ferland-Boileau dans une communauté qui se reconstruisait après une tragédie comme le déluge? Est-ce que les jeunes, les rares jeunes, n'étaient pas si nombreux, passaient des journées sur les consoles de jeux, où ils allaient marcher dans le bois? Je sais qu'il y a des chasseurs dans la famille, ton grand-père, un trappeur. Fait que vers quoi tu étais attiré? Puis comment les jeunes s'occupaient en grandissant?
Beaucoup, les jeunes, c'était tout le temps dehors. L'intérieur était vraiment pas priorisé. C'était vraiment axé sur... moi, je viens... Où est-ce que j'habite? C'est comme une rue cul-de-sac. Donc, jouer au hockey dans la rue, ça a été une grosse partie de l'hiver, l'été. On jouait dehors. On était une gang d'enfants un petit peu plus vieux que moi. Puis moi, j'aimais ça gauler. Fait que j'étais le gauleur dans la rue. Puis c'est tout le temps... C'était vraiment... On joue dehors. Puis moi, j'étais quelqu'un qui s'est tenu beaucoup avec ma famille, mes grands-parents. Pour X raisons, je sais pas. Je me suis toujours tenu avec des gens plus vieux que moi. Puis moi, mes grands-parents ont fait en sorte que j'étais souvent avec eux. Donc, avec mon grand-père, qu'il m'a développé, il m'a transmis la chasse, le trappage. Ça a été des choses que j'ai faites puis que j'adore encore, que j'ai plus la chance de faire aujourd'hui maintenant puisque je suis à Montréal. Mais c'est des choses qui m'ont transmis que c'est juste partie remise pour le moment.
C'est quoi, si tu peux me décrire un moment de bonheur à Ferland et Boileau là, en plein hiver ou en plein été, là, ça ressemble à quoi le bonheur pour toi tel que tu le vois, peut-être même pour ta retraite puis tel que tu l'as vécu dans ta jeunesse?
Pour moi, c'est arriver chez moi, on a ma motoneige qui est chez moi, je saute dessus, puis je peux partir de ma maison, partir en motoneige, me rendre au chalet de mon grand-père, le chalet familial qui est là-bas. On se rend là-bas, on a le secteur de piégeage qui est là. Passer seulement une journée au chalet, arriver, allumer le poêle là-bas, passer une journée là-bas qui fait soleil, t'es en nature, il n'y a pas de bruit, t'es libre, moi, je peux rien demander de mieux. Là.
J'achète. As-tu acheté ça, toi, Cassandra? Aimes-tu ça aller dans le bois avec Samuel? Oui.
C'est une des passions qui nous relie aussi. Autre que le patin, on partage cette passion-là de la nature. J'ai jamais chassé ni trappé, mais j'ai dit, si tu vas chasser, tu m'amènes avec toi.
La musique semble avoir été importante d'une certaine façon dans la famille également. Il y a un piano qui c'est chez tes grands-parents ou chez tes parents, ça, que le piano est bien placé là, dans le salon? Là?
C'est chez mes grands-parents. Ça, c'est le piano familial que la mère puis le père et mon grand-père avaient, qui est dans la maison familiale, qui ont ramassé avant que la maison soit détruite. Puis, dans le fond, mon grand-père joue de l'accordéon depuis plusieurs années, depuis qu'il a l'âge de 4 ou 5 ans, qu'il joue de l'accordéon, puis qu'il est vraiment jeune. Puis c'est vraiment un talent. Il joue pas avec des partitions. Il joue vraiment à l'oreille, puis c'est vraiment un talent qu'il a. Puis c'est vraiment quelque chose que, pour nous, dans la famille, entendre notre... moi, mon grand-père jouait, c'est quelque chose qu'à chaque année, à chaque Noël, chaque jour de l'an, il joue. On peut pas avoir un Noël sans qu'il joue un air. Ouais, c'est ça. Puis il m'a créé justement une chanson, un air d'accordéon, en l'hommage un peu du sport aussi que je fais. Dans le fond, la mélodie part un peu plus tranquillement, comme un 1500 mètres, puis finit rapide, comme la fin de course. Donc, c'est inspiré un peu de ça, de mon sport, pour créer une composition. Donc, je suis vraiment fier de ça.
Ça doit être quelque chose quand ton grand-père, puis je sais pas s'il y avait de la famille ou c'était juste un moment privé entre vous autres, disait, hey, Samuel, je t'ai fait un air de musique, je t'ai composé une musique d'accordéon pour toi. Comment ça s'est fait, la présentation de cet air-là? Puis est-ce qu'on est conscient? Est-ce que tu es émouvant pour toi à ce moment-là?
Oui, j'étais vraiment ému. Le premier moment qui me l'a joué la première fois, je me rappelle encore, on était dans le sous-sol en bas. Moi, j'étais assis dans les marches, puis lui était assis dans sa chaise où est-ce qu'il enregistre un peu ses morceaux. Puis il m'a dit, viens, il dit, faut que je te fasse écouter quelque chose, je t'ai écrit quelque chose. Fait que là, on est descendu en bas. Je revenais d'un championnat du monde, puis j'avais eu ma première médaille en championnat du monde. Il dit, j'ai écouté tes courses sur ma tablette, là, puis il dit, mon grand-père a 86 ans. Donc, quand il dit, j'ai écouté tes courses, puis il dit, ça m'a fait penser à toi, puis je t'ai composé ça. Puis il s'est levé durant la nuit, puis il y a eu cet air-là qui jouait dans la tête, puis il est descendu. Il est allé s'enregistrer en train de le jouer pour ma faire jouer plus tard. Ouais.
Je sais pas si ça va être sur ta playlist là avant une course pour te motiver ou te donner la cadence d'une course, puisque c'est inspiré d'une course, mais c'est on le voit là, tout ce que tu nous racontes. Je pense que les gens qui sont à l'écoute également, on vient de plonger dans ton monde, dans votre monde à tous les deux. Saguenay, Lac Saint-Jean, Saint-Félicien, c'est au lac, et puis Ferlin-Boileau, c'est plus au Saguenay. Hein?
Ouais, c'est ça, c'est la région du Bas-Saguenay en fait.
Ouais. Puis dans la famille là, il y en a qui ont été parmi les fondateurs, je pense, de la communauté. Hein?
Ben la famille Girard, en fait, ça a été dans les premières familles à arriver. Ils ont pas vraiment colonisé la place, on pourrait dire, mais ils étaient dans les premières familles à arriver à Ferlin. Au début, c'était vraiment ceux qui partaient de la ville parce que c'était des périodes plus pauvres qui étaient plus difficiles avec le travail. Donc, ils partaient de la ville, s'en allaient dans les rangs, dans les villages, puis ils ont créé le village de Ferlin pour justement développer, pour avoir leur propre champ et devenir autonome.
Petite devinette pour nos auditeurs et auditrices, comment appelle-t-on les citoyens de Ferlin et Boileau? J'ai pas de prix à donner. Connais-tu la réponse, Cassandra?
Je sais pas.
Je le sais pas, non.
Non! Ah! Tu vas-tu nous le dire, Samuel?
Oui, un ferboilien.
Ferboilien et ferboilienne.
Oui, effectivement.
Moi, je le sais juste depuis avant l'entrevue. Je suis allé voir quand même Cassandra. Faites-en pas, j'aurais répondu de la même façon que toi si j'avais pas fait la petite recherche. On en connaît déjà un petit peu plus sur nos deux invités aujourd'hui, Cassandra Bradette et Samuel Girard, patineurs de vitesse. On est à mi-parcours de l'entrevue et il nous en reste beaucoup, beaucoup à apprendre. On revient après la pause.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois Rencontre.
Voilà de retour avec nos deux invités aujourd'hui. Ils sont sur le point de s'envoler pour Pyeongchang en Corée du Sud pour participer à leur toute première Olympiade à vie. Cassandra Bradette, 28 ans, qui fera partie de l'équipe de patinage courte piste en relais. Et Samuel Girard, qui va prendre part à 3 épreuves et possiblement une 4e au relais également. Vous avez déjà visité les lieux de compétition là-bas, Cassandra et Samuel, hein, en Corée du Sud. Oui. Quelle impression que ça vous a fait quand vous êtes arrivés là-bas?
Tout est neuf, il y avait rien qui avait été utilisé quand on est arrivé. En fait, c'était même pas terminé de construire le site olympique, était même pas les bâtisses étaient pas terminées non plus. Mais moi, la première réaction que j'ai eue, j'ai comme fait, wow, c'est gigantesque, c'est immense. Il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent entrer. C'est le plus gros amphithéâtre de patins de vitesse qu'il n'y a jamais eu.
C'est populaire, le patinage de vitesse en Asie. Hein?
Ouais. C'est le deuxième sport le plus prisé présentement. Il y a le patinage artistique, je pense que c'est le plus populaire. Puis après ça, tu as le patinage de vitesse courte-piste qui est vraiment, vraiment, vraiment populaire là-bas.
Mais c'est vrai que c'est spectaculaire, mais savez-vous pourquoi eux autres, à ce point, ils sont tombés en amour avec ce sport-là dans plusieurs régions d'Asie?
Ça fait partie de leur culture. C'est beaucoup... Il y a beaucoup de sport-études en patinage de vitesse courte-piste, mais je ne sais pas fondamentalement qu'est-ce que...
Ben, eux, en fait, c'est qu'ils ont, c'est beaucoup... C'est universitaire, en fait. C'est que le patinage de vitesse, c'est un sport universitaire. Donc, chaque université, chaque athlète représente leur université lors des compétitions, plus que... Comme nous, on représente notre province ou notre ville.
Il y a d'autres sports aussi.
Mais oui, il y a d'autres sports, effectivement. Mais là-bas, le sport, le patinage artistique est le numéro un.
Il est encouragé, là.
Vraiment. C'est vraiment encouragé, puis... Je pense que c'est juste, pour vrai, c'est un beau sport. Je pense pas qu'il y a pas un pays qui peut pas aimer le patinage de vitesse. Donc,
Du fait aussi qu'ils performent bien au niveau international, puis qu'aux Jeux Olympiques, ils gagnent beaucoup de médailles. Les Coréens sont très, très, très fanatiques. Donc, je pense que s'ils sont bons dans quelque chose, ils vont être derrière leurs athlètes.
Qu'est-ce qui donne le goût à un jeune de choisir un sport plutôt qu'un autre? Vous êtes rendu aux Olympiques en patinage de vitesse. Vous avez goûté à bien des sports dans votre jeunesse. Comment se fait le choix du sport? C'est le choix des parents un petit peu? Ben, tu sais, pas le choix des parents parce qu'on fait goûter à des sports. Mm-hmm. Moi-même, comme parent, je pense qu'on amène nos enfants à goûter à bien des choses. Mais de là, est-ce que ça devienne quelque chose de... un tel engagement là, en termes d'heures et tout ça. Toi, est-ce que tu te souviens le jour où tu as choisi ce sport-là ou c'est le sport que tu as choisi?
Moi, j'ai pas choisi. J'ai mon père qui me dit « Tu vas faire du patin de vitesse » parce qu'à la base, moi, je voulais faire du hockey. Puis finalement, mon père m'a inscrit au patinage de vitesse parce qu'il a vu que ça existait. T'sais, on connaissait pas ça non plus en région parce que le club, on était quoi, 6 à ce moment-là quand j'ai commencé. Mais t'sais, aussitôt que j'ai mis les longues lames, c'est la sensation de glisse, de t'sais, tu pousses. Puis c'est
l'adhérence?
Le transfert de la puissance, la glisse, c'est ça qui m'a vraiment accroché dès le départ parce que c'est vraiment pour vrai le feeling que t'as quand t'es sur la glace puis que ça glisse là.
C'est gracieux. Ouais. Ça glisse, ça
coule. Le sport en tant que tel, c'est plusieurs aspects qui font en sorte que c'est un beau sport. T'as de la tactique, t'as de la puissance, t'as de la force. Puis tu sais, c'est toutes ces aspects-là combinés qui font en sorte que ça a l'air facile pour les gens qui nous regardent. Tu sais, c'est de réussir tout ça sans que ça a l'air trop difficile. Mm-hmm. Il faut avoir une certaine pointe de grâce aussi pour faire mm-hmm. du patin. Puis je pense que c'est tous ces éléments-là qui font que le sport est intéressant.
Cette voix, celle de Cassandra Bradette. Samuel, toi, on a compris un petit peu comment... Donc, c'est arrivé très, très jeune, là, même mm-hmm. avec des grandes lames. Tu étais ouais. tout jeune. Il y en a qui vont découvrir le sport plus tard. Mais est-ce que... On parlait en tout début d'entretien du fait que la région avait été une pépinière de patineurs et de patineuses. Est-ce que ça a compté quelque part en chemin ou pas vraiment t'es entré dans le sport trop jeune pour que ça ait une influence sur le choix comme tel? T'sais, on pense à des marques Gagnon, puis je vais en oublier, je les nomme tous, mais il y en a beaucoup, là.
Mm-hmm. Mais en fait, c'est sûr que pour le développement du sport, ça a été vraiment positif d'avoir des Marc Gagnon, Frédéric Blackburn, et ceux qui ont eu des résultats olympiques vraiment impressionnants. Ça a permis justement à des clubs de se fonder, puis aussi aux parents de voir ça à la télé, écouter les Olympiques, puis dire waouh, quel beau sport. Pourquoi pas mon fils pourrait pas en faire non plus. Donc, tu sais, d'avoir un certain boom après les Jeux Olympiques, d'inscrire leurs jeunes dans ce sport-là. Fait que je pense que c'est ce qui aide tout le temps. Tu vois que ta région, ta place a du potentiel. Puis ont des bons résultats. Donc, ça encourage justement à vouloir continuer et à vouloir inscrire des jeunes dans ça.
T'sais, à la base, ça vient d'un parent qui voit peut-être un potentiel, qui voit que c'est un beau sport, parce que, tu sais, c'est un beau sport en tant que tel. Les gens peuvent pas le nier que c'est un beau sport. Fait que, tu sais, s'ils mm-hmm. pensent qu'un jeune pourrait aimer ça, ben, ça vient du parent qui a peut-être le désir d'inscrire son enfant.
Bien sûr, puis de l'accompagner, c'est certainement. Ça. Puis c'est toujours beaucoup, des moments privilégiés.
Ouais. Ça vient beaucoup du parent au début. Ouais. Énormément, ça vient beaucoup des parents.
Il y a des beaux moments à vivre comme parent, puis c'est pas toujours au moment où la compétition se déroule, mais juste les permettez-moi l'expression, mais les raids de char, là, mm-hmm. les transports entre les lieux de compétition, là, aux petites heures du matin, puis à des heures parfois impossibles, quand il fait moins, je sais pas comment. Là.
On s'en souvient, ça. Hein? Nous autres, on en a fait en tabarouette là, de Saint-Félicien. On était plusieurs du bas du lac Saint-Jean, à l'entraînement à Chicoutimi. On faisait... deux fois par semaine, on partait de Saint-Félicien, on passait par Dolbeau pour aller chercher les autres filles. Puis après ça, on allait jusqu'à Chicoutimi s'entraîner, puis on revenait. On était 5 dans l'auto avec un parent, puis là, ben, tu sais, c'était ça 2 fois par semaine. Là.
C'est aussi pour les parents aussi, oui, les enfants font du sport, c'est le fun, ils sont ensemble, mais aussi de voyager. Eux, ils se créent un cercle d'amis. Tu voyages ensemble, tu fais les compétitions. Là, mes parents, en ce moment, vont être au jeu avec nous. Donc, tu sais, ils vont voir un peu les parents de Marianne vont être là, les parents à Cass vont être là, ils vont être ensemble, ils vont le vivre ensemble. Donc, c'est de vivre des choses aussi. Nous, on vit des choses, mais nos parents aussi, dans les estrades, vivent des belles choses. Puis c'est un peu, je veux rien enlever au hockey, mais on s'entend que des fois, le hockey junior, même, on s'entend bantam dans ces âges-là, les parents, ça se chicane dans les estrades, puis quand on prend le patin de vitesse, tout le monde est ami, tout le monde est, même si on est sur la glace, il y a eu un mauvais dépassement, quand on débarque, on est des amis, puis je pense pas qu'on est là pour se nuire, mais beaucoup plus pour être une petite famille, puis tout le monde être ensemble, beaucoup plus que de se chicaner, puis de se dire des bêtises.
Est-ce que les grands-parents seront là également?
Non, les grands-parents vont nous écouter à la maison, ils vont...
c'est un voyage. Avec toute la communauté.
Oui, c'est ça, il y a plein de choses qui sont organisées au village à Ferland, puis ça, je suis vraiment fier de ça, ils ont organisé organiser tout plein d'activités pour les jeunes, pour qu'ils puissent écouter, puis aussi pour les parents, pour qu'ils puissent voir ça sur écran géant.
Ouais, j'ai pris connaissance de ça là, une semaine, l'ouverture des jeux, puis là, vos compétitions. Vous allez patiner dès le lendemain des cérémonies d'ouverture, fait que vous allez entrer dans l'action rapidement. Qu'est-ce que c'est que de côtoyer un gars qui quand même a fait sa marque et qui est un de tes coéquipiers au sein de l'équipe canadienne, comme Charles Hamelin, arrivant un tout jeune patineur prometteur dans l'équipe nationale, de côtoyer le king là, de la discipline dans ces années-là?
C'est sûr, ça a été pour moi, je me rappelle encore, la première course que j'ai faite contre lui était les sélections nationales. La première fois, je me suis dit, OK, je suis à côté de Charles Hamelin sur la ligne de départ. Tu sais, t'avais c'était un 500 mètres, lui, il était champion olympique au 500 mètres. Je me disais, ouais.
T'as quel âge, là?
Là, j'avais quoi? J'avais 15 ans. Non, j'avais 15 ans, c'était mes premières sélections. J'avais environ 15 ans. Donc, c'était pour moi, c'était vraiment... Je pense que c'est un peu toute cette ambiance-là qui a fait en sorte de... qui m'a motivé à continuer les 4 dernières années à me dire, OK, je vais pour mon rêve à 100%. Parce que c'est justement côtoyer Charles Hamelin, François Hamelin, il y avait Olivier Jean, il y avait plein d'Olympiens qui étaient là. Puis que je pouvais côtoyer, puis ça me donnait tout un boost d'énergie, puis un boost de, OK, let's go, on fonce. Ce que je vis, c'est super beau, c'est super le fun, on continue.
Tu veux le rattraper éventuellement? Tu veux le dépasser? Non, je sais pas à quel moment ça devient même pensable de le faire.
Écoute, la première année, moi, mon but, c'était juste de le suivre. Tout ce que j'avais dans la tête, c'est qu'il faut que je suive Charles. Je sais que si je le suis, je vais aller vite. Les années ont fait en sorte qu'à l'entraînement, j'ai commencé à faire ma marque, j'ai commencé à être meilleur. Puis je pense que c'est devenu, année après année, ça s'est comme établi. Puis cette année, aux sélections olympiques, j'ai gagné cette distance sur 9. Donc, je pense que à ce moment-là, j'ai gagné ma place, j'ai gagné mon titre de numéro 1. Puis,
c'est quoi le sentiment quand tu réussis ça, là? Même si c'est pas aux Olympiques que ça se passe, mais de dépasser celui qui est vu comme le gars dominant. Ça, c'est comme battre Michael Kingsbury, là, en ski acrobatique, là.
Ben, c'est le numéro 1 au Canada. Tu te dis, j'ai battu le numéro 1 au Canada, mais qui a aussi un historique tellement grand. Puis, je suis content de l'avoir fait là aussi, parce que ça risque d'être, ça va être ses derniers Jeux Olympiques, sa dernière compétition internationale avec le championnat du monde. Quand il est parti, puis là, tu deviens numéro 1, c'est facile de dire, ouais, mais il était pas là. Tu sais, là, à ce moment-là, Charles était là, on s'est compétitionné, c'était une belle rivalité, c'était sain, puis ça s'est juste bien fait, puis c'est bien arrivé dans mon cheminement, puis dans son cheminement à lui aussi, de léguer le flambeau aussi.
Oui, il en parle beaucoup dans les entretiens qu'il accorde. Ça semble important pour lui là, de laisser une belle empreinte pour l'avenir, puis la suite des choses en patinage de vitesse courte piste. 3 épreuves individuelles et une où vous serez coéquipier, donc au relais, si tu fais puis tout indique que tu vas faire partie de l'équipe. Mm-hmm. Dans les disciplines individuelles, on souhaite d'avoir autant de Canadiens que possible en finale, donc ça se pourrait que vous retrouviez en finale d'une des courses. Là.
Ben oui, Charles fait les 3 distances aussi, donc il y a des grosses chances. Il y a des chances qu'on se retrouve ensemble en finale, puis d'essayer de gagner 2 médailles pour le Canada, ça c'est sûr. Puis je pense que tous les deux, on veut exactement la même chose l'un pour l'autre. On veut chacun se rendre en finale puis aller chercher une médaille pour le Canada. Puis tu sais, lui, c'est ses derniers jeux, moi c'est mes premiers, ma première expérience. Je vis sa dernière expérience, puis lui il vit ma première expérience. Donc les deux, on est des amis en dehors de la glace aussi. Fait que on veut pas, on est content l'un pour l'autre. Là.
Ça ferait une belle photo, les deux sur le podium, Cassandra. Hein? Tu trouves pas?
Oh, oui.
Hein? Quelle marche qu'on donne à qui, là?
Pour vrai, moi, je pense qu'en autant qu'il y en ait une pour le Canada, c'est ça l'important. Mm-hmm. Rendu là, la job est faite. Puis, tu sais, comme on se dit souvent, on travaille en équipe. Fait que, tu sais, la médaille d'or, s'il y a une médaille d'or, ben c'est le Canada qui l'a eu. Puis, tu sais, Sam va avoir autant travaillé pour la médaille à Charles que Charles va avoir travaillé pour la médaille à Sam.
C'est un travail d'équipe, même si c'est un travail individuel. Ouais. C'est un sport individuel.
Cassandra Bradette et Samuel Girard sont nos invités en entrevue aujourd'hui. Si vous me le permettez, on va faire une courte pause et on revient pour la conclusion de cet entretien.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Voilà de retour pour la suite de cette entrevue en compagnie de Cassandra Bradette et de Samuel Girard qui participeront très bientôt aux Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Une première participation dans les deux cas. Ça sera le relais pour toi, Cassandra. Qu'est-ce que tu visualises comme expérience en Corée du Sud, toi qui as déjà visité les lieux là-bas, comme toute l'équipe d'ailleurs?
Ben c'est sûr que j'ai des grandes attentes. Je pense qu'on a une équipe vraiment forte. Puis si je compare à toutes les équipes qu'il y a eu, je pense que cette année, on a une belle cohésion. On est une équipe qui est rapide. On est des filles fortes. Je pense qu'on est vraiment capable de rivaliser pour monter sur la première marche du podium. C'est sûr que va falloir qu'on se batte vraiment fort, mais on est rendu là. On est rendu à se battre. On a confiance l'une envers l'autre, puis je pense qu'on est capable de vraiment accomplir de grandes choses à ce moment-là.
Qui sont les rivales les plus redoutables?
Ben, on a vraiment un gros bassin présentement au niveau international. Il y a les Chinoises qui sont toujours là, les Coréennes. Après ça, les Pays-Bas, puis l'Italie. Il y en a d'autres qui peuvent venir mettre un petit peu le trouble pendant les courses, mais je pense que les principales sont là. C'est le top 4-5 présentement qui est le plus fort.
Est-ce important l'esprit d'équipe au relais en patinage de vitesse? Vous qui êtes aussi des adversaires quelque part dans les disciplines, quoique là, t'es pas aux Olympiques dans les disciplines, dans les épreuves individuelles, mais tu comprends le sens de la question?
Oui, c'est sûr que c'est important parce que faut que tu saches respecter les autres, faut que tu saches aussi que t'es là pour les autres puis que quand tu as un bon esprit d'équipe, je pense que tu peux avoir une bonne confiance aussi les unes envers les autres. Puis c'est aussi d'être capable de passer d'une étape. Mettons que tu as fait une course individuelle puis ça n'a pas bien été, mais là, faut que tu changes d'attitude parce que tu dis, bon, mais là, faut que je change mon cap de direction parce qu'on va faire un relais. Puis là, notre but, c'est de gagner le relais. Donc, c'est de vraiment être là les unes pour les autres puis de pas. C'est de pas se déranger. Puis de quand même respecter ce que les autres vivent aussi à ce moment-là, parce que c'est quand même un gros événement. Puis chacune de nous va le vivre de différentes manières. T'sais, moi, je vais être là au niveau d'équipe seulement, puis les autres vont être là pour des niveaux individuels. Puis ça va être de se retrouver au même moment, à même place pour le relais.
Est-ce que ça peut être un atout pour l'équipe, le fait que toi, ça soit ta discipline, le relais?
J'imagine que oui, parce que je vais être en pleine forme.
Oui, certainement, c'est
ouais,
ça?
Oui, je pense que oui.
Stratégiquement, je sais pas chez les gars s'il y a quelqu'un qui va être seulement sur l'équipe de relais, mais je sais pas si ça peut faire partie même d'une stratégie d'économiser les énergies de quelqu'un qui peut devenir un élément fort dans l'équipe du relais.
En fait, au championnat du monde l'année passée, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'étais là pour le relais aussi. Puis dans le fond, en finale, ils m'ont fait patiner, je pense, 4 tours au total. C'est moi qui terminais le relais. Fait que, tu sais, quand moi, j'ai embarqué sur la glace, ils m'ont fait économiser de l'énergie, tout le relais. Puis à la fin, quand j'ai embarqué, on a créé un gap incroyable puis on a gagné notre finale.
Donc, la stratégie compte. Samuel Gérard, on écrit déjà sur toi depuis un bout de temps déjà que t'es le dauphin de la discipline, le dauphin de Charles Hamelin. On parlait du lien puis la motivation d'éventuellement le rattraper. C'était ça ton seul objectif. Mais c'est quand même donc une première participation à des Jeux avec des attentes extérieures qui sont élevées. Puis je suis convaincu que toi aussi, tes attentes sont élevées. Donc, comment t'anticipes ça, là, tes Jeux qui s'en viennent? Là?
En fait, c'est premiers Jeux olympiques là, moi j'y vois vraiment pour absorber le plus d'informations possible de comment ça se vit, de comment ça se passe, comment ça se vit en équipe dans un condo, ça, 5 gars ensemble. C'est vraiment, je vais là vraiment pour ça. Les résultats, on veut tous gagner une médaille au jeu. Puis comme on discutait un peu ensemble ici, c'est l'objectif principal est atteint, c'est de se rendre aux Jeux olympiques. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Après ça, les médailles, je pense que c'est ce qui vient agrémenter les Jeux olympiques. Je pense que c'est ce qui vient compléter, puis c'est le travail de tellement d'années qu'on veut que ça soit nos résultats. Mais on y va aussi pour le vivre à 100%, puis de s'amuser. Puis c'est une compétition, c'est les mêmes compétiteurs que durant la saison. Fait que on fonce en continuant de faire ce qu'on fait si bien. Puis je pense que c'est un peu de la manière que je le vois que je vais l'attaquer. De l'attaquer, les adversaires, c'est les adversaires que je compétitionne avec toute l'année. Mais oui, c'est les Olympiques, mais je suis là aussi pour m'amuser puis absorber le plus possible d'informations pour d'éventuels Jeux olympiques pour arriver prêt puis savoir à quoi m'attendre pour les prochains.
Est-ce que ça joue dur en course, en piste, à l'international? Tu sais, on a vu quand même des scènes rocambolesques, parfois en patinage de vitesse. Là. Mais est-ce qu'il y en a qui sont, je vais prendre une expression qu'on emploie souvent dans le monde du hockey, qui jouent plus cochon que d'autres?
Oh, il y en a qui jouent plus rough, il y en a qui jouent plus cochon que d'autres. Puis souvent, c'est pas payant parce que les arbitres sont là justement pour voir ces gestes qui sont pas corrects. Donc,
est-ce qu'ils sont bons les arbitres en patinage de vitesse?
Oui, pour vrai.
Il y a un beau travail qui se fait. C'est sûr que c'est tout le temps, c'est subjectif. Il n'y a rien de on sait pas informatisé. Ça veut dire que c'est l'œil d'une personne. Mm-hmm. Fait que l'erreur est humaine, c'est un jugement. Fait que des fois, dépendamment d'un point de vue, ça va faire en sorte que le résultat va faire en sorte que ça sera pas peut-être ce qu'un autre aurait décidé. Mais en même temps, il essaie justement de rendre ça un peu plus objectif, mm-hmm. de trouver des moyens pour que, dans le fond, les disqualifications qu'il y ait un barème pour mm-hmm. que ce soit plus juste, pour qu'il y ait sur quelque chose pour se fier.
La technologie aussi est là aussi pour...
On a des caméras qui vont aider à prendre la décision, à aider les officiels à prendre des décisions. Yeah. On a un gros comité aussi par rapport avec les arbitres. Mm-hmm.
Ça se développe maintenant.
Parce que tu sais, à chaque compétition, il va y avoir des disqualifications qui vont être contestées. Ils vont dire, mais regarde, pourquoi cette fois-là, cette personne a été disqualifiée là, tandis que l'autre fois, celle-là, elle n'a pas été. Puis là, ils comparent. Puis là, ben, ils essayent de mettre des barèmes, comme j'ai dit un peu plus tôt tantôt.
Faut pas trop penser à ça, de toute façon. Non. Faut patiner. Faut patiner. Là, est-ce que vous êtes en mode repos avant les Jeux ou l'entraînement est encore assez intense ces jours-ci?
C'est quand même intense. On a diminué beaucoup le volume. C'est pas beaucoup en qualité.
Bon, l'intensité, c'est intensif. Ouais. Chaque entraînement, souvent, est pas super long. Nous, des fois, ça peut être 25-30 minutes, mais c'est intense, la qualité, comme Cassandra a dit, puis c'est vraiment l'intensité à son max, puis après ça, ben quand on va arriver au jeu, ça représente un peu un effort de compétition.
Je parlais de motivation avec Cassandra. Toi, tu carbures à quoi, Samuel Girard? Est-ce que tu as une routine? As-tu une chanson que tu écoutes avant de patiner? Ou comment tu te motives? As-tu un processus ou tu es assez...
Je suis assez ouvert là-dessus. J'écoute la musique, j'écoute tout type de musique, mais je pense que je carbure vraiment à l'adrénaline du patin. Moi, j'aime me retrouver sur la glace, puis la sensation d'être en avant quand tu te restes un ou deux tours à faire, puis que tu as la foule en arrière, que tu sais que tu as la chance de gagner une médaille. Ça, ce sentiment-là, je pense que j'ai jamais vécu ailleurs, puis je pense que c'est ce que je recherche à chaque fois que je fais une course. Gagner une course, le sentiment de fierté, d'accomplissement, je pense que c'est ce que je recherche dans chaque course que je fais, puis de dire que j'ai travaillé tout pendant 4 ans pour ça, le sentiment de fierté, je pense que c'est ce que je vais rechercher durant la compétition. Là.
Qu'est-ce que vous vous êtes trouvé au-delà de vous être rencontré quand Cassandra vivait des moments difficiles? Là, qu'est-ce que tu as trouvé chez Samuel qui t'a séduit? T'es son aîné de 5 ans à peu près? Là. Hein, Cassandra? En terminant sur une note un petit peu plus personnelle.
Faut que je réponde à combien je suis d'années de plus vieille ou bien?
Non, ça je l'ai déjà dit, mais sur le fait, qu'est-ce qui t'a séduit chez Samuel?
C'est son côté, il est... C'est sa chaleur. Sam, il va... Non, mais dans le sens que... Il va être capable de, dans le fond, de... Ça a été mon aîné, je vais-tu le dire?
Un pilier.
Mon rocher. Tu sais, ça allait pas bien. Il était là pour me faire voir un peu les bons côtés puis de me faire penser à autre chose. Tu sais, en soi, Sam, c'est quelqu'un de super... il est authentique. Fait que, tu sais, moi, ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'était quelqu'un qui m'apporte des valeurs comme l'authenticité, des vraies valeurs, la nature, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense qu'il m'a aidé à me retrouver aussi par rapport à ça. Fait que c'est ce qui m'a fait accrocher. Puis, tu sais, en fait, ce que je pourrais dire, c'est sa grande générosité. Tu sais, autant là, que il est vraiment généreux de tout, de son temps, de sa personne. Il va donner beaucoup, beaucoup aux gens qui apprécient.
Et toi, Samuel, je te pose la même question. Je sais pas si tu vas bafouiller en essayant de me répondre, mais qu'est-ce qui t'a charmé chez Cassandra?
Ouais, Cassandra m'a charmé par le ventre. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui aime qui aime beaucoup. J'ai une dent sucrée, donc elle cuisine vraiment bien. Donc, je dirais que je pense à cause de ça qu'elle m'a eu.
Ah ouais. C'est quoi son meilleur dessert, là, le petit spécial Cassandra qu'elle peut te faire? Là, ça veut faire plaisir.
Écoute, elle a tellement,
à Samuel, hein, ouais.
Juste cette semaine, elle a fait une croustade aux pommes, elle a fait plein de trucs, elle a fait des muffins. Tu sais, ça s'arrête jamais. C'est un fil continu de dessert. Par chance que je m'entraîne beaucoup parce que ça serait dur pour la ligne.
La vie d'un athlète qui s'entraîne pas loin du stade olympique, ça se passe beaucoup autour, j'imagine, hein, parce que vous autres, c'est Maurice Richard, votre quartier général.
Mm-hmm.
Ça doit être plaisant pour ça d'avoir votre place que depuis les années que c'est là. Hein.
Ah oui, c'est le fun d'avoir. C'est comme notre deuxième maison, on veut pas.
Vraiment?
L'aréna est faite vraiment que pour nous. On la partage un peu avec le patinage artistique de danse qui viennent s'entraîner quelquefois.
Scott Moore.
Ouais, qui viennent faire des tours de temps en temps. Mais c'est vraiment, je pense, c'est vraiment le fun d'avoir notre place. Puis là, en plus, après les Jeux puis les Championnats du monde, l'aréna va être en reconstruction. Donc, notre chambre, tout ça risque de changer un peu. Ça va être plus personnalisé encore au patinage à vitesse. Donc, ça risque d'être bien intéressant.
Vous vous envolez dans quelques jours?
Oui.
On part bientôt, on part le premier. Donc,
au matin.
Ouais, au matin très tôt. Donc non, ça risque d'être ça va être long, mais on est habitué. On est habitué à chaque année, on va au moins une fois en Corée, donc on est prêt, on est préparé à ça.
J'étais bien contente de faire votre connaissance, Cassandra Bradette et Samuel Girard. La meilleure des chances pour votre première participation aux Jeux Olympiques, pour le plaisir de vous regarder patiner puis d'avoir l'occasion de vous parler à votre retour, évidemment.
Oui,
j'espère
merci
bien.
Beaucoup.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Au revoir. J'espère que vous avez passé une belle heure avec nos deux invités, Cassandra Bradette et Samuel Girard. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous retrouve lundi aux amateurs de sport. Ciao.